une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'écrivaine et philosophe Eliette Abécassis qui nous parle de son actualité, la parution de La Transmission qui vient de paraître chez Robert Laffont. Bonsoir Eliette.
Bonsoir.
On ne vous présente plus aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, vous êtes ici chez vous, votre actualité. C'est donc la parution de La Transmission, récit chez Robert Laffont. C'est le regard porté par une fille sur le parcours de ses parents dont elle est admirative. Et ce ne sont pas n'importe quels parents, puisqu'il s'agit du philosophe et talmudiste Armand Abécassis et de son épouse, la psychanalyste Janine Abécassis. Des parents sur lesquels un nombre important de personnes portent également un regard admiratif, hein, dont moi je l'avoue, mais dont il nous manquait des clés pour suivre leur parcours qui épouse celui d'une génération d'érudits en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Vous écrivez d'ailleurs « Père de tous et mon père ». La présence paternelle et maternelle a traversé plusieurs de vos livres, le livre des passeurs que vous avez écrit à quatre mains avec Armand Abécassis, Mère et fille, un roman, Séfarade, bien sûr le maître du Talmud dont on devine hein, Armand Abécassis entre les lignes, il y en a d'autres.
Oui,
racontez-nous comment est né ce projet d'ouvrage.
Depuis longtemps, je voulais faire ce livre sur mon père. Je ne savais pas très bien comment l'écrire parce que je suis romancière et pas historienne et pas biographe. Donc je voulais avoir un regard personnel et intime sur mon père tout en racontant sa vie aussi et naviguer comme ça entre le récit et la fiction. Et finalement, c'est peut-être une biographie très intime, très subjective et un peu imaginaire. C'est ma vision de mon père. J'ai fini par trouver une façon de raconter cette histoire. En fait, quand mes parents ont déménagé, je le raconte dans mon livre, et que je me suis retrouvée à les aider à ranger leurs cartons. Et c'est vrai que j'ai découvert plein d'objets, de photos. J'ai fait sortir des photos, vous savez, ces vieilles diapos qu'on faisait. Ça paraît fou maintenant de faire sortir des tirages de photos ou de diapos qui n'avaient pas été développés. Et puis je me suis dit, c'est une bonne trame narrative pour faire une enquête sur mon père et mener un peu ce travail d'investigation dans sa vie, évidemment celle de ma mère, et à travers sa vie, raconter l'histoire aussi de cette tradition séparade de génération en génération, parce qu'il y a quelque chose qui le traverse et qui vient plus loin que lui, qui vient de plus loin que lui.
Armand, Amram, Sadr sont au thème des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Votre père a connu plusieurs vies et vous écrivez d'ailleurs, il est né au Maroc, vit en France et chérit Israël. En faisant ces recherches, est-ce que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas sur votre père ?
Oui, j'ai vraiment appris des choses. J'ai fait des découvertes. C'est un homme très secret d'abord, donc j'ai appris plein de choses parce que c'est un homme de parole qui parle tout le temps, qui enseigne, qui joue sa vie à l'enseignement et qui est c'est la Torah vivante, c'est le Talmud qui parle à travers lui, mais lui personnellement il parle peu de lui, sauf dans son livre La rue des synagogues, où il raconte vraiment son enfance à travers l'histoire d'une rue. Le principal personnage de ce livre, c'est la rue dans laquelle il a été élevé et dans laquelle il a vécu. Et donc, je me suis penchée sur son enfance, sur sa naissance. La première scène du livre, de mon livre, c'est quand sa mère est enceinte de lui. Et j'ai découvert surtout à travers lui, puisque sa mère l'a appelé Amram, Armand c'est Amram, et d'après Amram Ben Diwan, l'histoire de ce sage, ce grand rabbin, Amram Ben Diwan, qui est comme un saint au Maroc, qui est vénéré, il y a des pèlerinages sur sa tombe tous les ans, et on le dit faiseur de miracles. Il est venu au XVIIIe siècle depuis Hebron où il est né. C'était un kabbaliste pour venir au Maroc et finalement il y est resté et il passe passer de ville en ville à ouvrir des maisons d'études et à enseigner. Et donc, en fait, la découverte, je dirais, c'est à travers l'histoire de mon père qui aussi passe sa vie à enseigner. Aujourd'hui, il le fait en Zoom depuis, depuis son bureau. Mais enfin, il a enseigné partout dans le monde, comme Abraham Bentiwan.
C'est toujours des enseignements. Et les Zooms, justement, permettent d'avoir un public depuis Paris, sûrement où votre père se trouve, un public vaste dans le monde entier.
C'est ça, exactement. C'est du monde entier. C'est génial pour ça parce que il y a des gens de, je sais pas, du Canada, d'Amérique, d'Israël. Voilà, ça permet de faire le talmudiste itinérant, mais depuis sa chambre. Donc c'est vraiment pratique. Mais voilà, ce sont ces sages, ces rabbins, ces parades. Comme Abou Lafia, Abraham Hanel, tous ces grands rabbins, ces grandes figures qui ont passé leur vie à transmettre et qui ont passé leur vie à voyager. C'est des très grands voyageurs, ils ont parcouru, mais alors toute l'Europe, enfin, c'est fou. Et mon père est vraiment dans la lignée de ces grands sages. Je crois que c'est ça, en fait. Et pour moi, c'est un mystère. En fait, à travers mon père, je pose la question de. Qui me paraît être la question fondamentale de notre époque, que transmettre et comment transmettre. Et c'est une question qu'on se pose aussi quand vous me disiez pourquoi vous avez écrit ce livre maintenant, parce que j'ai des enfants adolescents et qu'on a vraiment changé d'époque en l'espace de 10 ans, on est rentré vraiment dans une ère très technologique et que quand les enfants grandissent, eh bien on se demande effectivement qu'est-ce que je suis arrivée à leur transmettre, qu'est-ce que je peux encore leur transmettre. Et on se rend compte à quel point c'est fondamental de parvenir, encore plus dans notre époque où c'est tellement difficile parce qu'on est capté par mille choses, d'arriver à leur transmettre la tradition. Donc j'ai voulu vraiment percer ce mystère de la transmission à travers la figure de mon père et de tous ces rabbins séparades.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre, vos enfants? Est-ce qu'ils connaissaient comme ça votre père, leur grand-père?
Non, il ne le connaissait pas comme ça. En même temps, il le retrouve, mais il le découvre aussi dans sa jeunesse. Et ce qui me fascine, c'est, je dirais moi, toute la vie, enfin, au Reder, parce que je raconte vraiment son enfance, où sa mère l'a amené à 3 ans au Reder. Ce qui les fascine beaucoup, c'est cette histoire avec ma mère, puisqu'ils se sont rencontrés chez les scouts, et puis de les voir, voilà, traverser le temps, la durée d'un couple et de l'amour, ça, ça leur paraît voilà, formidable.
Alors quand on lit cette histoire. Ah oui, c'est incroyable, vraiment une destinée sur plusieurs étapes, plusieurs lieux qui fascinent. Alors, on vous lit aussi hein, entre les lignes, vous l'avez dit, vous êtes romancière habituellement, là il y a le sous-titre de récit et on se demande si tout est vrai. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, je pensais que c'était inventé, cette histoire de déménagement, vous découvriez des choses inédites hein, pour vous, que vous n'aviez jamais vu auparavant, la figure tutélaire de Abraham Dinvan. Je me suis dit peut-être que ça peut être un romancé. Est-ce que l'essentiel est vrai? C'est pour ça que vous avez voulu mettre ce petit mot de récit sous le titre « La transmission ».
Oui, parce que là, c'est vrai, c'est la première fois que je... c'est très biographique, et autobiographique. Tout est vrai, tout ce que je raconte est vrai. Ce sont pas des personnages, même si c'est des personnages parce que c'est mon regard subjectif. En fait, c'est subjectivement vrai, mais oui, tout ce que je raconte est absolument réel avec des personnes qui sont mes parents et dont j'ai essayé de raconter la vie telle qu'elle s'est déroulée, mais en même temps à travers aussi une enquête, donc un vrai récit avec un peu du suspense, parce que on se demande quel est le mystère. Je cherche le mystère de mon père. faire, en fait. Donc,
et c'est pour ça qu'on vous suit comme un roman et qu'on se dit peut-être qu'il y a quelques libertés avec la vérité.
Oui, voilà, il y a quelques... Moi, cette liberté, c'est un artifice narratif, peut-être, parce que je voulais pas raconter une biographie, je voulais pas faire une biographie d'historienne, enfin, savante, parce que je suis pas historienne, et parce que, voilà, je suis beaucoup dans l'imaginaire, mais en même temps, j'ai fait tout un travail d'enquête, de documentation, mes parents ont écrit des passages entiers, je me suis vraiment plongée dans plein d'archives, dans les histoires de pèlerinage de saints au Maroc, que j'ai lu des thèses sur ce sujet, tout ça est très fascinant, très intéressant, il fallait vraiment reconstituer tout un monde et en même temps je voulais raconter une histoire, voilà, donc j'ai raconté une histoire un peu comme je fais dans mes thrillers avec un secret.
une histoire qui nous emmène une nouvelle fois avec les personnages principaux. Alors, les thèmes du judaïsme, son peuple, son histoire, sa religion, son âme, de la famille et de la transmission, est-ce que finalement, c'est pas un seul et même thème qui imprègne votre œuvre ? Quand on vous relit, tous ces thèmes sont toujours présents au travers de la transmission.
Oui, c'est vrai, la transmission, c'est vraiment ce qui relie toutes mes œuvres et finalement, j'aborde le thème frontalement et dans son origine et dans ce qu'il a de réel et d'important dans ma vie en me penchant sur cette question et ce mystère, mais c'est vrai que c'est un fil directeur depuis Qumran, de la transmission du judaïsme en particulier, et là, je dirais, du judaïsme séparade, parce que je trouve que j'ai déjà écrit un roman qui s'appelle Séparade. Je trouve que le judaïsme séparade n'est pas assez écrit. On est beaucoup dans la tradition orale. Et d'un point de vue romanesque, j'ai l'impression que c'est un monde qui se perd sans arriver à se retenir. Il y a quelques romanciers, mais il n'y a pas le Bachevi-Singer du monde séparade qui va arriver à nous replonger dans ces ambiances, justement parce qu'on est beaucoup dans cette tradition orale de maître à élève qui est très importante parce que très vivante et que peut-être qu'on considère que l'écrit, c'est pas notre tradition, mais pourtant ça me paraît important à retenir parce que le monde séfarade, il y a vraiment un grand attachement à la tradition, à la transmission, mais dans un esprit d'ouverture. Et c'est ça qui le caractérise. Et c'est vrai que mon père, qui est né en terre musulmane, déjà immergé dans une autre culture, dans le dialogue avec la culture qui parle arabe couramment, est venu en France où il est devenu plus que français, professeur à l'université en philosophie, et aussi très impliqué dans les amitiés judéo-chrétiennes, c'est très important chez mon père, il a été pris de l'amitié judéo-chrétienne, il a quand même écrit 3 livres sur le christianisme et sur Jésus, c'est pas banal pour un grand talmudiste, donc il s'est vraiment immergé dans cette culture française et chrétienne pour établir avant tout un dialogue, et un dialogue extrêmement fécond parce que dans l'esprit de Manitou, de l'école d'Orsay, puisque mon père a fait l'école d'Orsay.
Alors si vous me le permettez, on va en dire un mot parce que ce que vous dites appelle évidemment de nombreux tiroirs à ouvrir.
Oui,
alors il y a cette étape de l'histoire des idées qui s'est développée en France à la Libération, elle illustre le renouveau de la pensée juive moderne, c'est évidemment cette école de pensée juive de Paris, elle s'est articulée autour de 2 expériences, l'école Gilbert Bloch d'Orsay et le colloque des intellectuels juifs de langue française, elle a été portée par des figures charismatiques comme Jacob Gordin, Mordechai Chouchani, Emmanuel Levinas, Eliane Amadou-Lévy Valency, Léon Ashkenazi dit Manitou, André Nair et tant d'autres. Et non seulement Armand Abécassis les a côtoyés, mais en plus, il est passé par la célèbre école d'Orsay. Et dans votre livre, on voit défiler tous ces noms prestigieux et leur rapport avec votre père. Et vous écrivez, je me permets de vous lire, je vous cite, « Mon père est philosophe, historien de la pensée juive, ou plus exactement historiosophe, pour reprendre l'expression de Jacques Jacob Gordin et de Léon Ashkenazi, qui, au lendemain de la guerre, ont ouvert la pensée juive aux sciences humaines. Mais il y a également dans son enseignement une dimension éthique et axiologique. Autrement dit, ce qu'il cherche à transmettre, ce n'est pas un savoir. C'est beaucoup plus que cela. C'est en effet l'univers du sens. Et là, on trouve évidemment le fil conducteur de chacun de ces penseurs l'école de Paris. Est-ce que vous pensez que votre père, Armand Ebekassis, est l'un des derniers représentants de cette école et qu'il incarne l'un des derniers intellectuels juifs complets ?
Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est une grande figure du judaïsme français dans ce que vous avez tellement bien décrit, Sandrine, dans vos livres, cet esprit du judaïsme français qui consiste précisément dans le fait d'établir un dialogue entre le judaïsme et les sciences humaines. De telle façon, c'est-à-dire vraiment les sciences humaines, alors la sociologie, la philosophie, la psychologie, de telle façon à ce que les sciences humaines permettent d'avoir une lecture du judaïsme et le judaïsme permet d'avoir une lecture des sciences humaines. Ça va vraiment dans les deux sens. C'est ça qui est tellement passionnant et je crois tellement fécond pour la pensée parce que c'est super d'étudier le Talmud par le Talmud, mais quand on entend Jacob Gordin, Manitou ou mon père expliquer un texte de Talmud, eh bien on comprend sa pertinence aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment cette multiplicité des interprétations et ce renouvellement de l'interprétation en fonction de l'actualité et de ce qui va nous concerner et nous intéresser qui, à mon avis, est extrêmement fécond dans la lecture des textes. Et mon père a fait une thèse, sa thèse, il l'a faite à l'université sur l'interprétation, justement, avec Emmanuel Lévinas dans son jury, entre autres. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'il a travaillé tellement sur cette question d'interprétation, parce que il est le maître de l'interprétation. Ce sont tous ces grands maîtres d'Orsay l'ont été. Et mon père, avec ma mère, toutes les semaines, écrivent une lettre, enfin, qu'ils envoient aux fidèles de leur communauté, parce que mon père a sa synagogue dans le 16e à Paris. Et donc, cette lettre, c'est une interprétation de la paracha. Et ça fait 10 ans qu'il l'envoie par mail, cette lettre. Et à chaque fois, c'est quand même incroyable, d'année en année, c'est la même paracha, c'est toujours le même texte, hein, depuis toujours. Hein. Mais en fait, il arrive à trouver un nouvel éclairage qu'on n'avait jamais entendu.
Comme Monsieur Chouchani qui préconisait l'interprétation à l'infini. Et vous parliez tout à l'heure de son inscription dans la lignée des grands sages du monde séfarade. Mais dans cette école de pensée juive de Paris, on a cité Jacob Gordin qui a été le premier professeur en matière juive à l'école d'Orsay. La première promotion, il y avait Manitou hein, qui a suivi les enseignements, qui a été transmuté par les enseignements de Gordin et qui l'a intégré cette fameuse historiosophie. Mais est-ce que finalement, ça ne va pas au-delà que la tradition du monde séfarade? C'est aussi une tradition universelle, ce dialogue hein, de la pensée juive et du monde occidental qui passe par son inscription dans l'école de Paris.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de très français depuis Rashi déjà donnait son enseignement aussi à des chrétiens et qui avait déjà créé cette faculté d'interpréter, de réinterpréter le texte, de redonner des nouvelles interprétations depuis toujours. Et c'est vrai que ça, c'est la spécificité française, la vision du judaïsme qui est tellement intéressante et qui est assez unique.
Alors, votre père était éclaireur et éclaireur. Hein, il reste éclaireur. Est-ce que c'est toujours présent chez lui? Cèdre, on le connaît bien parmi les éclaireurs.
Bien sûr, c'est Cèdre. D'ailleurs, tout le monde l'appelle Cèdre. C'est très présent. Et vraiment, c'est quelque chose qui l'a marqué à vie. Il est toujours éclaireur. il en parle tout le temps de son... Alors là, pour le coup, je disais, c'est un homme secret qui parle pas de lui, mais alors, il parle tout le temps de toutes ces histoires de scouts. Et cette formation scout l'a vraiment a bouleversé sa personnalité, a forgé sa personnalité dans ce qu'elle a de généreux, d'entreprenant, pour une impulsion vers l'autre, et toujours cette façon de savoir comment est-ce qu'on pourra aider son prochain et changer le monde en aidant son prochain. Pour moi, c'est un peu ça le scoutisme. Donc bien sûr, c'est fondamental chez lui.
Alors, je vais me permettre une nouvelle fois de vous lire. Hein. C'est un extrait d'un dialogue qu'a prononcé votre père, et on y voit un de ses enseignements qui s'inscrit, hein. On sent l'écho de ces autres grandes figures de l'école de pensée juive de Paris. Je vous lis. La conviction religieuse ne signifie pas la possession de la vérité absolue qui mène à l'inquisition et au fanatisme. Au contraire, elle est attente et espérance et peut, comme la Bible, croire au Messie ou au diable, dont un exemple marquant se trouve dans la barbarie nazie. Je me demande toujours si la foi n'est pas d'abord l'espérance en l'homme, l'attente qu'il dise non au mal, malgré les cruautés et les crimes commis par ses congénères. Sans cette croyance qui se traduit par la responsabilité, la vie n'a pas de valeur. Et encore une fois, il y a un écho dans la situation aujourd'hui en France. On a un peu cette impression que les institutions religieuses et parfois ceux qui s'en rapprochent s'orthodoxisent. C'est totalement le contraire de cet enseignement de votre père et de ces autres grandes figures de l'école de Paris.
Oui, c'est vrai, dans le sens où c'est un repli sur soi qui n'est pas dans cet esprit d'ouverture du judaïsme.
Alors, je vous donnerai juste un exemple, pardonnez-moi. L'école d'Orsay a toujours été mixte. Les enseignants, donc au niveau des élèves, mais aussi au niveau des enseignants, il y avait des femmes qui étaient enseignantes, et ce qui comptait, c'était le mérite. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible, une école de jeunes gens, alors c'est pour ça aussi qu'il y a eu des couples qui ont été formés, mais une école de jeunes gens totalement mixte, dont le seul intérêt est de mettre en avant les compétences de chacun, que ça soit un homme ou une femme, un pratiquant ou un non-pratiquant?
Ben non, je pense que là, ce serait même pas envisageable, et c'est terrifiant. Moi, je pense qu'on est vraiment très, très, très rétrograde dans nos institutions françaises sur tout ce qui concerne la femme. Et c'est vrai que l'école d'Orsay était très visionnaire parce qu'il voulait former aussi bien des femmes intellectuellement que des hommes. Et puis là, on a l'impression que les femmes, elles sont complètement écartées de tout ce qui est intellectuel et qu'il faut qu'elles se limitent à faire des chalotes. C'est une catastrophe d'être aussi misogyne et rétrograde aujourd'hui, même par rapport à effectivement cette ouverture d'esprit qui était présente des années avant, et même depuis Rachi qui enseignait à ses filles. Et c'est vrai que mon père a gardé cet esprit-là tout en étant dans l'orthodoxie juive, mais une orthodoxie intelligente et ouverte, quoi. Et c'est ça qui est, cette ligne-là, finalement, elle est très difficile à tenir, parce que c'est beaucoup plus facile d'être en dedans ou en dehors, plutôt que d'être dans cette ligne où on va être totalement respectueux des traditions, mais intelligemment et sans misogynie. Ça semble fou aujourd'hui.
Et cette ligne aussi, vous le disiez un instant, qui préconise l'importance du dialogue avec les nations ou entre les nations. Alors, j'avais beaucoup de questions à vous poser, notamment son lien avec le monde chrétien, mais juste une seule quand même. Comment il est perçu en dehors du judaïsme? Est-ce qu'il est aussi une figure tutélaire, comme nous, on peut l'appréhender?
Totalement. Vous savez, j'en parle dans mon livre, dans cette association d'Avar depuis 30 ans, qui consiste dans un séminaire pendant l'année et aussi tous les ans, où juifs et chrétiens étudient ensemble avec des maîtres juifs et puis des enseignants chrétiens. Et c'est vrai qu'il est perçu, enfin, je parle de mon père, comme un grand maître par les chrétiens aussi. Il a fait aussi un voyage, enfin, il a fait plusieurs voyages avec des chrétiens en Terre Sainte, en Israël, où il leur expliquait en fait Jésus. Et il a enseigné aussi pendant de très longues années chez des bonnes sœurs en Suisse. Et en fait, les chrétiens sont vraiment fascinés de découvrir leur christianisme à travers cette interprétation juive qui est finalement beaucoup plus proche de Jésus et du christianisme que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et ils disent que l'écouter les renforce dans leur foi. Et ça c'est merveilleux parce que vraiment, mon père ne cherche pas à convertir quand il enseigne. Il cherche à... C'est un éveilleur de conscience. Et c'est un philosophe avant tout. C'est vraiment un philosophe dans l'âme. C'est pour ça qu'il n'a jamais voulu être rabbin, il n'a jamais voulu faire partie d'une institution et qu'il a enseigné dans tous les milieux parce qu'il a cette vision-là d'un esprit libre qui va enseigner la liberté à des esprits. Voilà. Je pense que c'est ça le projet de sa vie, c'est d'éveiller les consciences.
Est-ce qu'il est inquiet ? Et est-ce que vous, en écrivant ce livre, vous êtes inquiète par rapport à cet héritage ? Il est lui-même l'un des derniers héritiers de cette manière de penser, l'école de pensée juive de Paris. Est-ce qu'il y a des successeurs ? Est-ce qu'il s'en inquiète ?
Oui, il s'en inquiète. Il a beaucoup de disciples, beaucoup en Israël quand même. Mais en France, on ne voit pas très bien qui reprend ce flambeau de l'école juive de Paris. Et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter d'une perte de l'intelligence, de cette intelligence féconde. Et oui, il en est inquiet de... Que va-t-il advenir de la transmission de cette façon de voir le judaïsme dans la tradition et dans l'intelligence? Et on ne sait pas. C'est pour ça que ça me paraît fondamental d'écrire sur ce thème, la transmission, parce que qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui va se passer dans les générations à venir et comment on va arriver à transmettre. Et qu'est-ce qu'on va transmettre ? On ne sait pas répondre à ces questions-là.
Oui, oui. Tout un monde est à réinventer en France, si on reste en France, puisque des choses se passent à l'étranger, en Israël, peut-être aux États-Unis,
et qu'ici,
peu de choses. Comment vos parents ont accueilli le livre ?
Alors, c'est déroutant pour eux parce que, alors, ils ont beaucoup travaillé à ce livre, donc ils ont été à la fois la matière de ce livre. Et parfois, dans des passages entiers, vraiment, qu'ils ont plus que corrigé, ils l'ont lu, relu, commenté, recommenté, etc. Et finalement, de voir le livre comme ça, c'est déroutant, parce que même si c'est un livre qui est évidemment fait dans un esprit très positif, c'est toujours déroutant de se voir transformer en personnage. Et là, c'est des personnes qui deviennent quand même... mais personnage subjectif, c'est ma vision d'eux. Et parfois, ils se sont révoltés contre leur personnage. Est-ce qu'ils disaient non, mais.
Est-ce que vous avez cédé?
Ça,
vous êtes resté dans votre. Vous avez cédé.
J'étais obligée, oui, j'allais publier quelque chose qu'ils ne voulaient pas que je publie. Donc, j'ai enlevé, bien sûr.
Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire ce livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que c'est une enquête, c'est un mystère, que c'est une histoire avec du suspense et en même temps qui parle d'un thème fondamental qui est celui de la transmission des valeurs qui nous sont chères. Et c'est aussi une découverte d'un homme passionnant, Désolée d'être aussi modeste, c'est mon père, mais enfin, il est, sa vie est absolument incroyable, incroyable, fascinant, passionnant, et c'est la découverte aussi de tout un univers qui est celui du judaïsme séfarade arrivé en France.
En tout cas, merci infiniment de nous avoir partagé ce sujet, un des éléments de la vie de votre père qui sont, et de votre mère qui sont lourds de sens, comme vous pouvez le deviner. Eh bien, ce livre m'a beaucoup intéressée par toutes les étapes qu'il brosse, et notamment celle de cet renouveau de la pensée juive de langue française dans laquelle il s'inscrit parfaitement. Et évidemment, c'est un livre que l'on ne peut que recommander aux auditrices et aux auditeurs. Merci infiniment, Eliette, d'avoir parlé avec nous de ce livre, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Alors je rappelle le titre du livre, La transmission, récit, il vient de paraître chez Robert Laffont. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous, merci.